Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. La plus importante mobilisation depuis mars dernier. Entre 30 et 40 000 gilets jaunes ont célébré leur premier anniversaire dans la rue et sur les ronds-points hier. Et à la clé de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. À Nantes, la foule était clairsemée. Cet acte 53 a rassemblé un peu moins d'un millier de personnes dans une ambiance bon enfant. Pascal Boucherie était dans le cortège.
Ils ont fait connaissance sur un rond-point lors d'une précédente action des Gilets jaunes. Et pour célébrer les 1 an du mouvement, ils se retrouvent à nouveau dans le cortège à Nantes. Dalila, déguisée en Marianne, bonnet phrygien sur la tête.
Je défends le pouvoir d'achat, tout ce qui est taxes, tout ce qui est loyer, EDF. Avec 1500 euros, c'est plus possible de vivre et je ne lâche rien.
Son nouvel ami Jean-Marc est là pour immortaliser ses moments avec son appareil photo.
Ça fait un an quand même que le mouvement existe et ça restera dans l'histoire de France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ça restera à tout jamais comme mai 68. Hein.
Et Mireille de Châteaubriant pour leur tenir compagnie et continuer de dénoncer l'injustice financière.
Je sais qu'on va rien avoir. Hein. En fait, il y a un homme et on sait très bien qu'on n'aura pas rien de cause.
Ce trio d'amis s'attriste du faible nombre de participants, pas plus d'un millier au plus fort de la journée.
On ne peut pas avoir trop d'espoir et être trop déçu.
Et là, vous estimez que vous êtes assez nombreux?
Non, clairement non.
Le 14 septembre dernier, pour l'acte 44 à Nantes. Les gilets jaunes étaient 2 fois plus nombreux que ce samedi, mais c'était en plein pendant l'affaire Steve.
Et d'autres actions sont prévues aujourd'hui dans toute la France. Marche blanche en Alsace en mémoire de Sylvie Walter, morte sous les coups de couteau de son mari dimanche dernier. Elle est la 131e victime de féminicide cette année. Un chiffre qui augmente dramatiquement puisqu'on comptait 121 féminicides sur toute l'année 2018. Ce chiffre, on le connaît grâce à 2 collectifs, Féminicide par Compagnon ou Ex et Nous Toutes. Un décompte non officiel voué avant tout à sensibiliser Maya Baldour-Offredon.
Ce sont 4 femmes, 4 anonymes qui ne se sont jamais rencontrées et pourtant elles tiennent ensemble en échangeant via les réseaux sociaux le compte des féminicides en France. Une action médiatisée grâce au collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles Nous Toutes, un travail d'équipe pour Fatima Benomar qui fait partie du mouvement.
Le collectif Nous Toutes, il travaille avec un collectif féminicide par compagnon ou ex qui faisait ce comptage depuis 2016, qui fait un travail bénévole énorme, hein, c'est-à-dire de faire des recherches tous les jours sur Internet pour voir s'il y a eu des féminicides commis.
Chaque jour, elles comptabilisent les homicides conjugaux qu'elles peuvent trouver dans les médias, sur Internet. En 2018, les militantes du collectif ont recensé 120 meurtres, un de moins que les chiffres officiels du gouvernement. Pour Caroline Dehas, militante féministe et membre du collectif, c'est un moyen de rendre leur identité à ses victimes.
Les chiffres, ils permettent de ne pas oublier les victimes, de montrer que chacune d'entre elles compte, que chacun de ces crimes a existé et que nous ne les oublierons pas. On est à plus de 130 féminicides depuis le début de l'année. Qu'on soit à 90, à 120 ou à 150, de toute façon, c'est des féminicides en trop à chaque fois.
Un temps remis en question, ce comptage semble aujourd'hui faire foi et être devenu l'outil sur lequel on s'appuie pour rendre compte de ces drames. Les médias le reprennent et la liste des victimes a même été affichée fin août sur la façade de l'hôtel de ville.
Au Venezuela, l'opposition est retournée dans la rue hier. On est encore loin des grandes manifestations du début de l'année, mais ce n'était pas un échec total pour l'opposant Juan Guaido. Avec plusieurs milliers de participants, c'était même la plus grande manifestation depuis le 1er mai, au lendemain du soulèvement militaire avorté. Juan Guaido qui bénéficie d'un léger regain d'espoir lié à la démission d'Evo Morales en Bolivie. Une correspondance de Benjamin Delisle.
Après Evo, autour de Maduro, peut-on lire sur les banderoles de la place José Curti au centre de Caracas. Manuel, 35 ans, agite un drapeau bolivien. Il assure que sans la crise en Bolivie, il n'aurait pas manifesté.
C'est clair que le Vénézuélien a perdu cette force. Il s'est endormi et a abandonné la rue. Mais de voir qu'en Bolivie, ils ont eu le courage de faire démissionner Evo Morales, ça remotive.
Certes, c'est un regain timide car la majorité des Vénézuéliens a préféré rester chez elle. Mais selon Désiré, une militante transgenre, c'est un bon début.
On espère qu'après aujourd'hui, les gens vont s'unir à nouveau pour manifester, mais beaucoup ont peur parce que vivre au Venezuela avec la répression des forces de sécurité, c'est risqué. Personne n'est libre, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme.
L'attitude des forces de l'ordre, c'est justement ce qui distingue le Venezuela de la Bolivie, estime la députée Delsa Solorzano.
En Bolivie, par chance, les forces armées et la police se sont manifestées en faveur du peuple. Ici, nous avons une armée et une police qui est complice de tout ce qu'il se passe au Venezuela.
Reste que Juan Guaido a tout fait pour surfer sur la crise bolivienne. Après son discours, il a entraîné le cortège jusqu'à l'ambassade de Bolivie en soutien à Jeanine Agnès, la nouvelle présidente par intérim.
Notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle. Le 17 novembre, ce n'est pas seulement l'anniversaire des Gilets jaunes, évidemment. C'est aussi cette année le 30e anniversaire de la révolution de velours en République tchèque. Une semaine après la chute du mur de Berlin, c'est la violente répression d'une manifestation étudiante qui a précipité la chute du régime. La rumeur de la mort d'un étudiant lors de cette intervention a joué un rôle non négligeable. Retour sur cette fake news avant l'ère des fake news avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.
Je pense que la mort de Martin Schmidt change la situation en Tchécoslovaquie.
Après la manifestation du 17 novembre 89, c'est le dissident Peter Hull qui informe les médias étrangers de la mort de l'étudiant sur la base d'un faux témoignage. Sa fille, Sacha Hullova, avait 12 ans à l'époque.
C'était une jeune femme qui est venue chez nous et qui a dit que c'était son ami qui était mort. Et donc mon père, il a appelé aux médias à l'Occident, comme il a fait toujours avant. Et donc ça a un peu déclenché les grands manifs en 89.
L'écrivaine Magdalena Platsova était présente à la manifestation du 17 novembre à Prague et elle a eu la peur de sa vie quand la police est intervenue.
Il y avait des gens qui pouvaient être en danger de mort. Alors, c'était pas quelque chose vraiment fabriqué. Mais oui, c'était une rumeur qui a en fait déclenché la révolution, je pense, parce que les étudiants et puis les acteurs aussi, les gens du théâtre, ils ont commencé la grève à cause de ça. C'était une fake news, mais c'est sûr que ça a beaucoup aidé à ce moment-là.
Il est certain que même sans cette rumeur, le régime communiste aurait fini par chuter à Prague aussi. Mais 30 ans après, l'information et la désinformation sont des défis de taille pour la démocratie tchèque. Des dizaines de milliers de personnes manifestaient hier encore à Prague contre les conflits d'intérêts du Premier ministre Andrej Babiš, qui a racheté des médias influents au moment de son entrée en politique.
Une correspondance d'Alexis Rosenzweig. Le temps, ce matin, ciel plutôt clément. On déplore seulement quelques gouttes de pluie en Alsace, sur la pointe bretonne, en Corse et dans les Pyrénées. Les températures vont de 4 à Metz jusqu'à 12 à Perpignan.